Moi, je peux peut-être répondre en évoquant un chantier analogue et comparable qui est celui du travail historiographique sur Jean-Pierre Vernon, qui a été mon maître. L'un de ses amis, qui est maintenant, qui est professeur en Italie, Riccardo Di Donato, a entrepris, depuis des années, une sorte de biographie intellectuelle extrêmement fine, extrêmement minutieuse, de Jean-Pierre Vernon, mais aussi de ses maîtres comme Louis Gernet et Meyerson. Et il a réussi à trouver des documents tout à fait nouveaux et inédits, alors qu'ils sont, par exemple, des brouillons d'articles ou des rapports que Vernon a remis au CNRS lors de son tout premier recrutement. C'est-à-dire ce genre de littérature grise qui, à l'époque, était extrêmement légère. Enfin, une simple page suffisait, alors qu'aujourd'hui, les chercheurs qui ont la chance d'avoir des postes sont soumis à des dossiers beaucoup plus importants. On a retrouvé également des exercices ou des papiers de Vernon produits dans des séminaires de la Sorbonne. C'est-à-dire, c'est en philosophie grecque, précisément, où un ponte avait demandé au jeune Vernon, il était presque quinquas à l'époque, il débutait, pour ainsi dire, dans les études grecques, et lui avait posé une question aux antipodes de l'univers intellectuel de Vernon, c'est-à-dire de faire un tableau synoptique et comparatif de toutes les interprétations modernes de la philosophie d'Anaxagore. C'est-à-dire, c'est vraiment le genre d'exercice sorbonnard typique. On a retrouvé tous ces papiers-là, tous ces brouillons. Et une étude extrêmement fine et quasiment philologique permet de voir l'apprentissage de techniques de travail, des modalités d'écriture, de lecture des sources. On a la chance d'avoir une grande partie de la bibliothèque de Vernon, et donc de pouvoir, par exemple, voir surgir dans les notes de bas de page de ces articles la mention d'un livre qu'il vient d'acquérir ou qui lui a été envoyé, et qui va comme ça irriguer et influer tout un ensemble de questionnements et se propager par des ramifications dans les articles d'une même période chronologique. Donc c'est une démarche, je dirais, archéologique, philologique, paléographique, et qui implique le regroupement d'éléments extrêmement différents. Pour votre travail sur Foucault en bibliothèque, c'est vrai que j'ai été absolument fasciné par cette idée dont on avait parlé lors d'une des premières fois où on s'est rencontrés, de retrouver les parcours de Foucault dans la bibliothèque de l'école, c'est-à-dire de retrouver les hasards de ces découvertes qui font que, je sais pas, en recherchant un texte philosophique, Foucault peut se tromper de travée et passer dans la travée des textes anthropologiques ou historiques ou les pères de l'Église ou autres, et être amené par le hasard d'une découverte à, là aussi, faire une bifurcation de la pensée. Mais, effectivement, où sont les traces? C'est désolant que la bibliothèque de l'école normale n'ait pas conservé ces itinéraires, et il faudrait pouvoir reconstituer le détail de tous les changements matériels. Alors peut-être que la seule bibliothèque qui autoriserait ça, c'est la bibliothèque de Warburg, qui précisément a été construite et conçue en fonction du hasard des découvertes, du hasard et de la nécessité des contiguïtés sur les étagères, quoi.
Oui, j'ajoute peu de choses. Le vrai problème, c'est celui de l'hétérogénéité des sources, surtout si on veut travailler, non pas de manière monographique, mais sur de nombreux philosophes. Et effectivement, tout dépend à la fois de la piété des disciples ou des proches, et de beaucoup d'accidents d'histoire, parce que Jean-François est aussi sinon mieux informé que moi, puisque je travaille actuellement sur Durkheim, d'une forme d'incertitude dans laquelle on se trouve encore sur les papiers de Durkheim, et donc de la dissymétrie des sources. Alors Giovanni Paoletti a travaillé à partir des cahiers d'emprunt au tournant du XXe siècle. Il a fait un travail intéressant. Malheureusement, ce type d'archive a disparu, ce qui est assez criminel, je trouve, parce que c'est un indicateur fantastique de ce que les gens lisent à un moment donné du temps, et on peut à ce moment-là justement reconstituer des trajectoires de lecteurs et faire des comparaisons, et du coup ça rend les choses très déséquilibrées. Alors c'est intéressant de manière historiographique, on peut aussi s'intéresser sur la manière dont, disons, les successions philosophiques, enfin ont été gérées, et ces effets différents qu'elles produisent. Alors pour Sartre, par exemple, on sait très bien que son mode de vie a fait qu'il a lui-même égaré des manuscrits qui pouvaient faire 400 pages, et à ce moment-là, évidemment, on est face à un ensemble de trous. Alors, je voulais revenir, mais je crois qu'il y aura une communication là-dessus, sur le fait que c'est pas une propriété de la philosophie, loin de là, mais je pense, enfin, il faudrait le démontrer, pour une bonne part, disons, le produit fini en philosophie, alors qui est plus le livre que l'article dans la tradition française, est un produit qui tente à dissimuler une bonne part de ses sources, ses fondations, et donc et aussi des objections auxquelles il répond. Et donc là, il y a un travail de recontextualisation très très important à faire, qui est difficile à faire, puisque ce qui est important, c'est plutôt les textes qui ne sont pas cités, qui sont présents dans un arrière-fond, que les textes qui sont cités. C'est vrai pour Bergson à un très très haut degré, mais c'est aussi vrai pour d'autres. Alors je suis moins expert de Foucault, donc je ne me risquerai pas à évoquer cette question. Alors je vous retourne la question aujourd'hui, la manière dont fonctionne les bibliothèques, est-ce qu'elle permet de tracer justement à partir des emprunts, ce qui n'est pas l'entièreté d'un parcours, effectivement. Non,
aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale, dans la mesure où tout est fait par informatique, si, justement. La consultation, puisque jamais la Bibliothèque nationale n'a conservé les fiches, elle ne peut pas conserver les fiches de ses lecteurs, puisque ça fait une bibliothèque à côté. Enfin, c'est impossible. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on peut voir ce que les gens demandaient, ce que le lecteur a demandé sur sa table.
Mais c'est intégré l'idée qu'ils vont pérenniser dans un archivage pérenne. Bon, la ville garde un certain temps et il l'enlève. Hein. Il y a personne de la BN qui sait la réponse. Ici, à mon avis, ça c'est pas prévu que ça soit pérennisé.
D'accord.
Mais bon.
Oui, mais c'est tout à fait... Enfin, un ethnologue qui travaillerait aujourd'hui sur une... une possibilité qu'on envisageait pour un travail à venir, c'était de choisir quelqu'un et de se dire, j'imagine que Christian n'est pas les premiers à avoir imaginé ça, prendre quelqu'un du champ intellectuel aujourd'hui et le suivre à la culotte. Et ça, c'est vrai que l'informatique laisse paradoxalement beaucoup plus de traces.
Merci.